c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est
de Fréquence Mistral.
Et nous sommes sur Fréquence Mistral avec Jean-Sarah Méa, géographe retraité, pour parler de la Durance. Nous venons d'écouter la chanson « L'eau vive » de Guy Béard pour introduire ce sujet qui est dans un film, n'est-ce pas ?
Tout à fait, avec le même nom et qui est très intéressant. On peut l'acheter sur CD ou DVD, qui date de la fin des années 50. Donc pendant le chantier de Serre-Ponçon, on voit les énormes travaux, les énormes engins de chantier et la mise en eau qui noie des hameaux, dont Savine. C'est un peu troublant, c'est même très émouvant par moments.
Oui, on va parler de la construction de ce barrage qui a beaucoup bouleversé la vie locale aussi. Mais on va d'abord parler de la Durance, de cette rivière qui trace la vallée de la Durance. On parle beaucoup de la vallée de la Durance, qui est une route du nord au sud qui traverse 4 départements et plateaux, tous chargés d'histoire. C'est une véritable colonne vertébrale, finalement, de la Provence, des Alpes à la plaine de la Croix. Elle traverse donc la région sud, la région PACA. Donc, peut-être on peut revenir sur sa source avant tout. Où est la source de la Durance ?
Commune de Montgenèvre, au sud du village, donc à plus de 2000 mètres, dans une belle surface verte l'été d'alpage. Mais c'est vraiment un tout petit ruisseau. D'ailleurs, quand on interroge des Briançonnais, ils vous disent « mais le confluent au pont des Amoureux ». En allant vers Val-des-Prés, le confluent avec la Clarée, on a ce tout petit ruisseau qui s'appelle la Durance et puis la belle rivière qui est la Clarée. Mais voilà, ce n'est pas la Clarée qui va jusqu'à Avignon.
Et non, c'est la Durance. Et son parcours a toujours été le même à cette Durance, puisqu'elle a subi, ou elle a eu beaucoup d'aménagements en tout cas.
Alors, on peut voir depuis la route ou l'autoroute, on peut voir le lit habituel, le lit ancien. L'été, il y a quelques chenaux avec un peu d'eau, bien clair. Bon, en géographie, on dit les chenaux anastomosés, c'est-à-dire qui se séparent et qui se réunissent. Et puis après, je me souviens, le 1er avril de cette année, m'être arrêté à l'aire de Ganagobi et la Durance frôlait l'autoroute. Les gens s'arrêtaient pour prendre cet énorme débit de couleur marron avec des vagues de quasiment un mètre de haut par endroit et un bruit tout à fait inhabituel. Et ça voulait dire que le canal latéral ne pouvait pas emporter l'énorme débit provoqué par un épisode climatique méditerranéen 24 heures ou 48 heures avant sur les Alpes de Haute-Provence.
Et avant ces aménagements, cela signifie que s'il y avait beaucoup d'eau, elle pouvait déborder ?
Ah oui, oui, tout à fait. En géographie, on apprend qu'il y a le lit mineur, c'est-à-dire l'endroit où l'eau s'écoule en permanence, et le lit majeur, c'est beaucoup plus vaste sur les deux rives, si le relief s'y prête, là où le flot s'écoule lors des grandes crues. Et évidemment, si l'homme, oubliant les crues anciennes, construit des aménagements importants dans le lit majeur, ça veut dire que tôt ou tard, ce sera détruit. Pour toutes les rivières, où qu'elles soient, hein, c'est pas...
Et à quoi ressemblait cette rivière avant les aménagements ? Pouvez-vous nous la décrire ?
Tout dépend de la saison. En hydrologie, le débit est niveau pluvial dans la moitié supérieure. C'est-à-dire que le maximum du débit, c'est avril-mai, lorsqu'il y a la fonte des neiges sur le Queyra, sur les Écrins, sur le Briançonnais et l'Embrunet. Donc, débit nival maximum, donc avril-mai. Et on dit niveau pluvial parce qu'après, ça dépend des gros orages ou des gros apports d'eau par les séquences de fortes pluies, qu'elles viennent de l'ouest ou du sud, sur le bassin versant. C'est quand même un très vaste bassin versant, 15 000 km². Donc, on a à la fois le climat plus méditerranéen et plus maralpin, comme on dit, ou des Alpes du Sud. Par contre, dans la partie inférieure, c'est un climat plus méditerranéen, donc très sec l'été, avec très peu d'eau dans la Durance. Et c'est un climat pluviaux, un débit pluvio-nival, c'est-à-dire qui dépend essentiellement des pluies et très secondairement de la fonte des neiges s'il y en a eu en fin d'hiver.
On parle justement, si je ne me trompe pas, de haute, moyenne et basse Durance,
oui,
qui permettent de distinguer ces trois niveaux de la Durance. Et donc les crues qui avaient lieu couramment auparavant avaient lieu plutôt dans la haute et la moyenne Durance ?
Oh, sur tout le parcours, surtout moyenne et basse Durance, oui, parce que c'est là que les eaux de tous les affluents rejoignent le tronc hydrique principal, et donc c'est là que les crues peuvent être les plus ravageuses. Et il y en a toujours eu, depuis que la Durance existe, c'est-à-dire depuis la fonte des glaciers du Quaternaire. Voilà, disons 12 000, 15 000 ans. Les hommes oublient ou non la dangerosité des crues selon qu'elles sont très espacées ou non dans le temps.
On disait justement que la Durance était un des fléaux de la Provence.
Au XVIIIe siècle, les trois fléaux de la Provence sont le Mistral, ce qui était peut-être un peu exagéré, parce que le Mistral quand même assèche la boue et emporte les moustiques. Le Parlement, alors ça, le Parlement s'est arrêté avec la Révolution française. Je suppose que les gens trouvaient peut-être que le Parlement d'Aix-en-Provence, n'oublions pas que la capitale de la Provence n'a jamais été Marseille, c'était Aix. Peut-être qu'ils avaient la main lourde au niveau des impôts. Et la Durance, justement, à cause soit des crues, soit de l'absence d'eau lorsqu'on en a le plus besoin, c'est-à-dire l'été.
Alors, elle était critiquée pour être un fléau, mais elle était quand même utilisée, cette Durance. Quels étaient les usages de la Durance à l'époque ?
Évidemment, l'approvisionnement en eau pour arroser les cultures. Bon, il n'y avait pas les magnifiques vergers qu'il y a depuis Serponçon, depuis 1960. Mais, disons, toute la plaine alluviale fertile, sauf s'il y a trop de cailloux, entre Sisteron, Manosque, là, il y avait une tradition de culture maraîchère, y compris avant d'arriver à Avignon. Culture maraîchère qui faisait vivre énormément de villageois. D'ailleurs, si on regarde les villages, ils ne sont pas au bord de la Durance. Par précaution, ils se mettaient beaucoup plus loin. Et je me souviens d'un professeur d'hydrologie qui nous expliquait, il était de Fort-Galtier, il nous expliquait que jusque dans les années 1940 ou 50, quand il n'y avait plus d'eau, presque plus d'eau, dans la Durance en juillet-août, en pleine nuit, il y avait des agriculteurs qui venaient grignoter avec des pelles, qui venaient grignoter les petites digues pour dériver un peu d'eau vers leurs champs. Et comme ceux d'en face faisaient la même chose, ça se réglait quelquefois au fusil de chasse.
On espère qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus nécessaire du tout.
Puisque justement, la Durance, entre-temps, a été quand même fortement aménagée. Le plus grand aménagement, c'est le barrage de Serponçon.
Oui, c'est vraiment l'ouvrage qui régule, en aval bien sûr, qui régule la totalité de la vallée.
Quand est-ce qu'il a été construit ou quand est-ce déjà est venue l'idée de le construire ? Est-ce que c'est en réponse à ces crues ?
C'est après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu des moyens financiers et des grands aménagements du territoire, pas seulement dans les Alpes du Sud. Il est terminé et mis en eau en 1960. Et j'ai un souvenir personnel. La petite école rurale de Nance-les-Pins dans le Var, où j'étais, a fait un voyage pour nous expliquer le barrage de l'Escale, qui est un peu au sud de Sisteron, et le barrage de Serpenson. Donc, à 9 ans, je peux vous dire que c'est un souvenir très important. Plus, on est revenu par Tallard, donc on a pris on a regardé les cheminées des fées ou les demoiselles coiffées, et on a pris le pont de Savine qui venait d'être ouvert à la circulation quelques mois avant.
Le lac était déjà en eau ?
En grande partie, oui. Mm. Oui, parce que c'était juin 61. Donc, il y avait eu les pluies et la fonte des neiges du printemps, de l'hiver 60-61, oui.
Alors, quels étaient les objectifs de ce barrage ?
Les cinq buts, les cinq principes, les cinq objectifs qui se complètent les uns les autres. La régulation du débit pour éviter les grandes crues qui peuvent être... diminuer, mais pas totalement empêcher, bien sûr, et surtout éviter les étiages trop longs et trop graves qui ne permettaient pas d'irriguer. D'où le deuxième but, faire de la vallée de la Durance en aval de Serpenson, donc en aval de Remolon-Tallard, hein, une magnifique zone de production de pêche, de poires, d'abricots, de pommes, bien sûr, c'est-à-dire une magnifique région de vergers qui est très dynamique sur le plan économique, qui exporte en Europe. Et ce n'est possible que par une eau d'irrigation très pure et très bon marché pour les agriculteurs. Donc ça a modifié le paysage et l'économie. Le troisième but, c'est évidemment produire de l'énergie. Il n'y a quasiment pas de mine de charbon dans le sud-est de la France, un petit peu à Gardanne à l'époque. Et donc, il s'agissait de produire beaucoup d'électricité. Les autres barrages hydroélectriques sur le Verdon ou sur les fleuves côtiers derrière Nice produisent beaucoup moins. Là, c'est 6 milliards de kilowattheures. 6 milliards de kilowattheures, c'est considérable.
Ils ont été construits après le barrage de Serpenson ou ils étaient déjà présents ?
C'est en même temps. L'usine hydroélectrique est, disons, dans le barrage, qui est un barrage tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas le seul. C'est ce qu'on appelle un barrage poids. C'est-à-dire que, comme les roches ne sont pas solides sur les deux rives, et comme c'est une région légèrement sismique, il fallait ne pas prendre de risque pour un lac de barrage qui est un des plus grands d'Europe. Donc, barrage-poids, ça veut dire que c'est une digue extrêmement épaisse, haute bien sûr, avec un noyau cimenté, mais ensuite, ça a été des noriades, des milliers de noriades de camions et d'engins de chantier pour apporter des cailloux, surtout les cailloux roulés, des alentours et de l'argile.
Des alentours, tout était trouvé sur place ?
Oh oui, pour l'essentiel, oui. Oui, bah, il suffisait de creuser un petit peu le lit de l'Ubaye, puisque l'Ubaye conflue dans le lac de Serpenson. Et l'argile qui provient des alluvions, on n'allait pas faire venir ça de centaines de kilomètres. Donc c'est ce qu'on appelle un barrage poids. Ensuite, l'alimentation en eau potable de l'agglomération ex-Marseille. Ce n'est pas rien. Ce n'était pas la première fois. Au XIXe siècle, il y avait déjà eu, on peut voir l'aqueduc de Roquefavour, hein, pas très loin de la gare d'ex-TGV, et qui alimentait déjà, à partir de la Durance, l'agglomération marseillaise. Mais avec Aix-Marseille, on dépasse 1 200 000 habitants, il faut quelque chose d'à la fois sûr, régulier et de bonne qualité. Donc, très clairement, c'est la Durance qui approvisionne l'agglomération marseillaise. Pour Toulon et le Var, c'est le Verdon. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment plus d'eau. Quand vous passez le pont sur le Verdon à Vinon, l'été, il n'y a quasiment plus d'eau dessous. Parce que le Verdon est détourné vers l'agglomération toulonnaise, qui fait 500 000 habitants, et l'irrigation d'une partie de l'agriculture du Var. Et puis le cinquième but, même si ce n'est pas essentiel au départ, c'est le tourisme. C'est une base touristique l'été. Mais pas seulement, il y avait de jolies voiles blanches ce dimanche sur le lac de Serpenson qui était archi-plein, avec une couleur bleue émeraude magnifique. Ben, il y avait des voiles blanches et tout l'été, bien sûr, que ce soit avec les camping-cars, les campings, les colonies de vacances, les les immeubles pour accueillir des locations d'été, et puis tous les sports nautiques qui en font un centre économique, disons en juillet-août. Voilà. Donc voilà les cinq buts qui ont été tout à fait réalisés et qui fonctionnent toujours, bien sûr.
On pourra revenir sur certains d'entre eux, mais au moment de cette construction, le lac a recouvert plusieurs villages.
Oui, dont le principal a été Savines, le reste c'était des hameaux. Donc Savines a été démoli, le village traditionnel qui était dans la plaine alluviale avec ses cultures et ses prés de fourche. Et Savines a été reconstruit là où est maintenant un très joli village touristique au carrefour de la route vers Lubaï et de la route principale vers Georges et Gap, lorsqu'on descend. Donc, ça a été une opération, comment dire, immobilière et d'aménagement du territoire, avec quelques grincements de dents, parce que les gens perdaient, bien sûr, leur vieille maison, leur église, leur champ, etc. Ça a été, EDF a très largement indemnisé.
Et puis, le village a été détruit pour une question de mémoire.
Ah oui.
Puisque le lac se vide.
Alors,
les étés.
J'ai vu sur plusieurs kilomètres, c'est très spectaculaire, c'est quelquefois vers mi-avril, lorsqu'il y a eu d'énormes chutes de neige sur le Kéra, sur la région de Briançon, les Écrins. EDF craint, par une remontée d'air chaud brutale, une fonte trop rapide du manteau neigeux, ce qui serait difficile à gérer au niveau du barrage. Donc on vide un bon tiers du barrage et on voit l'ancienne vallée sur plusieurs kilomètres, disons entre Embrun, Croix et au sud de Savines, on voit l'ancienne vallée. Mais bon, on avait démoli les habitations, il valait mieux. Mais c'est vraiment spectaculaire pour accueillir une brutale fonte du manteau neigeux.
Comment ça se passe? On a eu beaucoup d'intempéries ces deux dernières saisons.
Bon, disons que le lac est quand même suffisamment vaste. Vous imaginez 2 ou 3 mètres en hauteur, ça fait un volume considérable d'eau. Donc, il accueille sans problème des intempéries qui sont souvent beaucoup plus fortes plus bas, hein, dans le 04, le 83, le 84. C'est tout à fait géré par l'équipe qui gère le barrage, les écoulements, etc.
On va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après et on écoute La rivière de Pommes.
Souviens-toi, toujours, si tout ça c'est...
Nous sommes dans le magazine À la bonne heure sur Fréquence Mistral depuis Briançon avec Jean Saraméa, géographe retraité, pour parler de la Durance. Donc nous parlions juste avant des aménagements qui ont lieu dans les, enfin, en 1960 avec la création du barrage de Serponçon.
Et ce grand canal.
Et le canal, oui, on n'a pas parlé du canal.
Que l'on franchit de, par la route ou par l'autoroute. Ce grand canal qui sert pour l'irrigation et qui sert pour amener de l'eau jusque ensuite vers Aix-Marseille. Et à chaque marche d'escalier, pour employer un terme imagé, il y a une usine hydroélectrique.
D'accord. Donc ce sont là toutes les, tous les petits barrages qui ont été construits après le barrage de Serponçon.
Tout à fait.
D'accord. Et ce canal, il suit le lit de la rivière quand même.
Oui.
Et il va où?
Il va un peu en aval de Manosque, puisque l'autoroute le franchit encore juste avant le péage de Saint-Paul-les-Durances, l'entrée d'Itter. Et ensuite, il se partage entre la rivière traditionnelle, l'alimentation en eau d'Aix-Marseille, et une partie du débit est envoyée dans l'étang de Berre. Dans l'étang de Berre, la voie ferrée traditionnelle, on passe sous ces énormes tuyaux. C'est la dernière marche d'escalier où l'on peut produire de l'hydroélectricité. Et évidemment, le débit n'est pas énorme. La Durance a été largement ponctionnée. N'oublions pas que le Verdon n'apporte presque plus d'eau dans la Durance. Mais ça adoucit un petit peu l'eau saumâtre de l'étang de Berre. Enfin, c'est à une échelle réduite.
Et la Durance elle-même, la rivière, jusqu'où va-t-elle?
Elle arrive dans le Rhône, un peu en aval d'Avignon.
Donc c'est un affluent du Rhône.
Oui, on voit qu'il reste assez peu d'eau, sauf période de crue, quand on passe en TGV. Après Aix-TGV, entre Aix-TGV et Avignon-TGV, on suit la Durance en grande partie. Et on voit que c'est des terrains marécageux et pas beaucoup d'eau, parce qu'elle a été très utile.
Donc ça reste un axe finalement de communication, puisque la Durance était utilisée.
C'est un axe clé des Alpes du Sud. Sur le plan humain et historique, pendant plusieurs siècles, de la fin du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XXe siècle, les habitants des montagnes qui avaient du mal à survivre l'hiver, parce que c'était une économie très pauvre, avec peu de réserves, descendaient l'axe de la Durance pour s'employer pendant l'hiver, puis souvent pour faire souche dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Les gaveaux descendaient la Durance. Et de nos jours, il y a quand même un axe commercial au niveau fret important, c'est Marseille-Turin. C'est Marseille-Turin qui évite l'autoroute très encombrée de la 8, surtout après Nice et sur la rivière à Ligure. Et ce sont les touristes. L'hiver pour les stations de ski et l'hiver, le printemps et surtout en été pour passer au frais et dans un bon air, plusieurs semaines, sinon plusieurs mois d'été, c'est mon cas, en altitude.
Puisque vous venez du Var.
Je viens du Var.
Mais vous venez très souvent ici.
Ah oui, je passe un bon tiers de l'année dans le Briançonnais, avec grand plaisir.
Donc un axe majeur de communication aussi pour la biodiversité.
Alors, sur le plan climatique, j'avais acheté la première carte climatique faite par l'Université de Grenoble. C'était absolument remarquable parce que ça reposait sur des mesures très précises et dans la durée. On voyait ce golfe de climat méditerranéen remonter, disons au moins jusqu'à l'Argentière. Peut-être pas vraiment Briançon, quoique. C'est-à-dire un rythme saisonnier quasiment méditerranéen avec des genévriers, le lavandin, y compris jusque vers Névaches, y compris sur les pentes du Mont Genèvre, et d'autres plantes typiques du climat maralpin, disons, méditerranéen de semi-altitude, qui arrive jusque dans le Briançonnais et qu'on ne retrouve absolument pas en Savoie. Dès qu'on passe le col du Galibier, c'est tout à fait autre chose. Et même lorsqu'on arrive vers le lac du Chambon et Bourdoisan, c'est une autre végétation.
Donc ça revient jusqu'ici. On parlait des affluents tout à l'heure, on n'a pas parlé des affluents et par contre oui. De
alors,
la Durance.
Ben, le premier important, c'est la Clarée, qui a beaucoup plus d'eau que la jeune Durance. Ensuite, la Guisane. La Guisane apporte beaucoup d'eau parce que c'est quand même le versant nord du massif des Écrins, c'est le versant nord des Agneaux. Et au moment de la fonte des neiges ou des gros orages, la Guisane a quelquefois davantage d'eau que la Durance proprement dite. Ensuite, il y a le torrent de Cervière, hein, la Cerberette. Et puis la Gironde, qui apporte l'eau des glaciers du Pellevoud, glacier blanc, glacier noir, elle froide, voilà. Et la fonte des neiges au nord de Puy-Saint-Vincent. Ensuite, ben, en oubliant des petits ruisseaux, le Guil qui draine donc tout le Queyras et qui arrive au pied de Mont-Dauphin. Hein. Autrement, après, ben, l'Ubaye qui arrive dans le lac de Serponçon, la Bléone qui draine toute la région de Digne, Seine-les-Alpes, Sud et Barème.
Donc là, on est plus bas, on passe dans les Alpes de Haute-Provence.
Ah oui,
alors que nous étions dans les Hautes-Alpes.
Le Bêche qui descend de Luz-la-Croix-Haute et des sommets du Dévoluy, c'est vraiment magnifique, qui apporte une partie de l'eau de ces Alpes dites baronnies. Et puis, bien sûr, le Verdon. Même si, je le répète, le Verdon est presque totalement détourné vers le Var. Il faut vraiment une crue importante pour que le Verdon apporte de l'eau à la Durance.
Et on parlait de paysage, justement, là, malgré les aménagements, il y a toujours un
tout
beau
dépend
paysage.
De l'échelle. Lorsque la vallée est barrée par une roche très dure, ça peut être ce qu'on appelle le calcaire urgonien ou titanique en minéralogie, ou par des roches cristallines plus dures dans le Briançonnais, l'ancien glacier, puis de toute façon la rivière, ont creusé des gorges spectaculaires avec des falaises et des barres rocheuses qui sont magnifiques. Hein. Entre Presles et l'Argentière, même si la route ne suit pas le fond, mais le train, oui. Ensuite, Saint-Clément-sur-Durance, où on sort du Guillestrois pour arriver dans l'Embrunais, c'est très visible. Et il y a d'ailleurs des sports nautiques tout l'été à cet endroit-là, parce que vraiment, le flot accélère. Ensuite, la gorge de Serponçon, avant Romolon-Tallard, la barre de Sisteron, qui est absolument splendide, avec l'ancienne fortification qui protégeait la Basse-Provence, puisque l'Ubaye n'est devenue française qu'en 1713, c'est-à-dire assez tard. Et puis, on dit les clus en Provence. Hein, clusium en latin, c'est-à-dire des endroits où la rivière est enserrée dans une vallée plus étroite. C'est celle de Mirabeau. Mirabeau entre Manosque et Aix, ou entre Manosque et Avignon, bien sûr. Donc, il reste... L'aménagement humain n'a pas tout défiguré, ou alors c'est juste le fond de la vallée. Donc il reste des passages magnifiques à voir et à observer.
Cela vous a inspiré un poème, il me semble. Vous m'avez dit que vous vouliez partager
oui,
une de vos créations. Vous aimez bien écrire, Jean Saraméa.
Oui, j'aime bien faire des poèmes au très simple. Là, c'est l'acrostiche.
Alors,
évidemment, en parlant, ça ne se voit pas. Ça veut dire que les premières lettres de chaque vers forment le mot « la Durance ». « La Durance » est lancée au col de Montgenèvre, a d'un trait de turquoise, en montagnard orfèvre, durant son long parcours, arrosé Briançon, Ubaye épousé dans le grand Serponçon, rôdé dans les vergers de Tallard, Sisteron, alimenté l'Escale et Manosque, Oraison, nimbé de Mirabeau les rocs et le vieux pont, caressé l'émeraude au flanc du Luberon et plongé dans le Rhône en aval d'Avignon. Bon, c'est très géographique. Hein.
Oui, mais justement, géographique et littéraire à la fois. Peut-être un mot de la fin, vous, géographe, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de la Durance ?
Comment dire ? Deux choses. D'une part, que ce soit par la voie ferrée, SNCF, ou que ce soit par l'autoroute, Vinci, maintenant, ce sont des axes inachevés. Puisque quand on remonte d'Aix-Marseille, ben, ça s'arrête au sud de Gap, à la Saulce. Et après, ben, il faut passer soit le col de Luz-la-Croix-Haute, en réalité, il faut sortir à Sisteron-Nord, soit le col Bayard, mais on n'a plus d'autoroute, sauf avant d'arriver à Grenoble. Quant au train, ben, il est arrivé en 1884 à Briançon, et on voit bien dans Briançon la voie ferrée qui s'arrête à un butoir, parce que ben, on n'a jamais fait le tunnel pour rejoindre le Piémont, ce qui a été fait côté Savoie. Donc ce sont des axes importants et très utiles à différentes échelles à l'heure actuelle qui ne sont pas terminés. Et si il m'arrive en tant que géographe de rêver à l'échelle européenne, je vois passer quand même cette quantité impressionnante de camions lourdement chargés, soit depuis un petit peu l'Espagne, soit depuis le Bas-Rhône, Languedoc, soit depuis les industries de l'air marseillaise qui rejoignent le Piémont par le Mont-Genèvre. Quand on en prend un dans la montée, ben, on comprend que pendant pas mal de kilomètres, on ne peut pas doubler. Et il monte à 30 ou 40 à l'heure, ce qui est bien normal. Donc, il pourrait y avoir, mais ça c'est ma réflexion de géographe, un grand axe européen, Lisbonne, Madrid, Montpellier, ex-TGV, Vallée de la Durance, qui ne détruirait pas les vergers. Il faut bien voir qu'une ligne à grande vitesse pour le fret, très secondairement pour les passagers, comme la Suisse a su très bien en faire, ces lignes à grande vitesse pour le fret, c'est l'emprise au sol, c'est une demi-autoroute, hein, pas plus. Donc ça ne détruirait pas les vergers, ou alors très localement. Il faudrait évidemment un tunnel, disons, entre l'Argentière et Oulx, pour rejoindre le réseau à grande vitesse italien à partir de Turin, et ensuite ben, ce serait Turin, Milan et l'Europe de l'Est jusqu'à Kiev, hein, jusqu'en Ukraine. Ce serait un grand axe européen qui pourrait être financé par l'Europe, qui intéresserait secondairement le tourisme, mais enfin ça pourrait amener rapidement des touristes l'hiver comme l'été dans l'Embrunais ou le Briançonnais, mais surtout on verrait passer des trains avec des conteneurs, ce qui limiterait l'encombrement de camions sur route et surtout la pollution. Ben, ce serait électrique.
Et vous parliez d'un second point, si je ne me trompe pas ? Non, c'était le seul, puisqu'il va bientôt falloir que nous rendions l'antenne. Vous vouliez... Ou c'était c'est... votre point de la fin ?
Oui, tout
le
à fait.
Le point de la fin, très bien. Eh bien, merci Jean-Sarah Méa pour ce partage et pour cet entretien. Juste une petite annonce, ce week-end, pour celles et ceux qui sont dans les Hautes-Alpes, les 26 et 27 octobre, il y a un week-end de rencontre avec l'association SOS Durance pour parler de cette rivière, avec des ateliers, cartographie, théâtre, forum à Saint-Martin-de-Querrières. Et il est 12h57, il est temps de se quitter. Rendez-vous demain à 12h10 sur Fréquence Mistral dans notre magazine À la bonne heure avec ma collègue Nathalie de Manosque. Ça, c'est demain. C'est tout pour nous aujourd'hui et bon après-midi à toutes et tous.
Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et continuez à vous documenter. Deserves only just light years to go.
my thoughts of flowers strew the ocean storm they bury me. I have got to leap to find my way. Watch the road and memorize the slide that passed before my eyes. Nothing is going my way. The river's cold, need to leave, the water knows, we're closer now than ever.
Vous êtes sur Fréquence Mistral.